Une radio, c'est de bonnes infos, mais de bons programmes aussi. Richard Progetti, vous avez été le pape de la discothèque d'RMC, de Radio Monte Carlo, pendant 15 ans, quand ?
Non, disons que je suis rentré à RMC en 65, et en stage, à la discothèque. Et par la suite, donc, au mois de mars 66, on m'a rappelé, tout simplement. C'est-à-dire qu'être discothécaire, c'est d'abord s'intéresser bien évidemment au moins à la musique et à tout ce qui entoure la musique. C'est apprendre d'abord, parce que c'est très particulier, sachant qu'au tout début, vous sortez des disques. Il y a des programmateurs, comme Madame Coutisson, je la cite, puisque Madame Coutisson faisait des programmes de disques, n'est-ce pas, le matin, sur RMC. Donc il fallait sortir des disques. Puis au fur et à mesure, effectivement, j'ai pu avoir une émission qui s'appelait Rythme d'hier et d'aujourd'hui, avec un autre ami André Fagioli, qui était aussi à la discothèque. Et par la suite, on m'a confié des tranches horaires. C'est-à-dire qu'il y avait à peu près il devait y avoir une dizaine de programmateurs à RMC. Donc chacun ayant des tranches horaires, 6h, 9h, etc. Sur des tranches sur 3h.
C'était une discothèque qui a contenu jusqu'à 200 000 disques.
Oui, même un petit peu plus, je pense.
Même plus ?
Sachant qu'effectivement, nous avions des disques en 2 ou 3 exemplaires, même plus.
Alors justement, c'est bien que vous en parliez, parce que j'allais vous parler des pièces uniques. Qu'est-ce qu'il y avait comme pièces uniques et qui sont toujours là ?
Alors, d'abord, le directeur de la discothèque était M. Pécheral. M. Pécheral, donc, c'est un monsieur qui était, pour ainsi dire, en fin de compte, il collectionnait. C'était sa passion d'avoir des disques. Alors, les premiers disques, bien évidemment, 78 tours. Ça, c'était assez important pour qu'on puisse les conserver. Pas de souci de conservation proprement dite. Puis par la suite arrivent les 45 tours, arrivent donc les 30 cm, toujours pareil, micro-sillon. Donc il n'y a pas de. Alors, la classification variété, classique, opéra. Mm-hmm. Tout était, comment vous dire, mis sur fiche pour que nous puissions avoir un fichier central. Au cas où, pour trop faire des recherches, si une personne avait envie d'avoir tel type d'interprète pour savoir qu'est-ce qu'il a réellement sorti.
Alors, une pièce unique, en voici une, c'est ce qui débutait tous les programmes sur Radio Monte Carlo, tous les matins. Voilà, l'hymne monégasque en 78 tours, s'il vous plaît. C'est vous qui nous l'avez fourni. Là, systématiquement, on avait un petit pincement au cœur, Jean-Louis Filquin. On savait qu'on allait être lancé dans le grand bain.
Ah oui, oui. Oui, oui. Mais moi, j'adore cet hymne. Et il vous mettait en. Parce que le matin, certaines fois, on était en kit. Il fallait se monter avant d'arriver à la radio. Et ça vous mettait en forme. C'est formidable.
Alors, comment ça se passait, Richard Progetti ? C'est le directeur des programmes qui choisissait les disques à passer ou vous aviez latitude ?
Il y avait la super attitude. On faisait vraiment, c'est-à-dire que M. Pécheral centralisait. Par rapport, on amenait, comme des petits élèves, à M. Pécheral notre programme pour qu'il voit s'il n'y avait pas de doublons. L'intérêt, c'est effectivement dans la matinée, pour l'émission de 6h, 9h, 9h, midi, pour voir s'il n'y avait pas de doublons. Donc voilà, on passait là. Je considérais un petit peu comme un pion, là, mais c'était normal. Voilà, donc on changeait s'il y avait des doublons. Donc chaque comment dirais-je programmateur amenait son programme. Tout ça était fait à la main. Hein. Donc tout était rédigé à la main au niveau des programmes. Ça partait par la suite au BCE, au Bureau Central d'Exploitation, pour que des jeunes filles tapent à la machine la conduite. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y avait... Logiquement, c'est du 16 disques par heure, 16 à 18 disques par heure. Mais ces messieurs des informations, M. Filk, bouleversaient parfois... Les habitudes.
Oh, c'est rare.
Oh, c'est rare, quand même un petit peu.
Et jusqu'à 135 disques par jour, parfois.
Oui, alors c'est énorme. C'est fantastique. Alors, aucune contrainte. Côté français, peut-être un peu plus de français.
Ça, on va en parler tout à l'heure.
On va parler des quotas.
Les quotas, oui. Hein, donc... Est-ce qu'il y a des disques qui ont été interdits d'antenne ?
Ah oui. Ah oui.
Par exemple.
Léo Ferré, le président.
Et qui est pourtant monégasque.
Absolument.
Mais qui est passé à l'antenne quand même, parce qu'un certain, pour ceux qui l'ont connu, Fournier, Jean-Paul Fournier, il est passé dans la nuit. Bien évidemment, ça a fait un tollé général, parce que ce disque est interdit, même il est encore interdit maintenant.
Et ce qu'il faut dire, c'est qu'on avait une police d'antenne à l'époque, ce qui n'existe plus aujourd'hui. On avait ce qu'on appelait les régisseurs d'antenne. L'un d'ailleurs était un ancien policier, et c'était des gens qui fliquaient l'antenne. C'est-à-dire qu'ils avaient un petit cahier, ils étaient en régie technique, dans un petit bureau à part. On ne les aimait pas beaucoup, hein, parce que si vous bafouillez, par exemple, Noël, mais bien, Monsieur Fantoni...
Ah, moi, je ne bafouillais jamais.
On dit savonné.
C'est fabuleux quand même, comme réflexion.
Des preuves.
C'est comme quand un bruit... C'est bon. Ça. Monsieur Fantoni.
J'ai un bêtisier aussi.
Monsieur Fantoni a bafouillé à 11h02 pendant les informations.
Exact.
Et il pouvait tout noter. Un disque, le disque machin de Sheila gratte un peu à la telle minute. Toute l'antenne était fliquée.
Il faut se rendre compte de toute la manipulation, tu es d'accord, qu'il y avait. C'est-à-dire qu'en portant les disques à ce BCE, cette fille les tapait, les mettait dans des classeurs. Ces classeurs passaient à l'antenne. Plus la publicité, alors les bobineaux aussi. Donc c'était la manipulation qu'il y avait par rapport à maintenant où pratiquement
il n'y a plus de manip.
Plus aucune manip, quoi. Donc c'est extraordinaire.
Maintenant c'est la playlist.
Carrément.
Alors une date primordiale dans la programmation, avec Pierre Lescure justement, oui. C'est l'arrivée des quotas. D'abord on va rappeler ce que c'est.
Bah, disons la parité, parce que s'il y a quand même beaucoup d'artistes français. Un petit peu la préférence par rapport aux artistes anglais, mais aussi il y avait énormément, sachant qu'à partir de 60, à partir des années 60, arrive toute la production américaine, certes elle était déjà, mais la production anglaise, où une multitude de groupes arrivent, bon, c'est Beatlesmania, etc. Et alors là, c'est fabuleux parce qu'il arrive.
C'est le raz-de-marée.
C'est le raz-de-marée.
D'accord. Et ce grand bouleversement, il est efficace ou on laisse vraiment la place à la chanson française. Le pourcentage, généralement?
C'est une colle pour moi, mais enfin, j'essaye de m'en souvenir par rapport. Sur 10 disques, il y avait au moins quand même 3 ou 4
français. D'accord. Vous avez choisi de nous proposer trois animateurs emblématiques de Radio Monte Carlo, à commencer par Francis Blanche. Alors, pour les plus jeunes d'entre nous, Francis Blanche, c'est sûrement les Tontons Flingueurs, hein, évidemment, oui, le
bravo,
film.
Bravo, oui.
C'est peut-être le sketch avec Pierre Dac.
C'est le sketch avec
Pierre Dac. Le Sarabindra Duval. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il a inventé à Radio Monte Carlo canular téléphonique.
En plus de ça, il a fait énormément de chansons. Hein.
Oui, oui.
Beaucoup de chansons. Il a écrit énormément de textes. Beaucoup.
Le gag téléphonique, c'était ça.
Allô?
J'écoute.
Ça fabrique d'ouvre-boîte?
Oui.
Ah, je m'excuse de vous déranger, mais je ne sais pas comment... je ne peux plus arriver à ressortir ce machin du couvercle à présent. Comment ça se fait?
Comment?
Je ne peux plus arriver à ressortir votre truc du couvercle, là. Ça, c'est pas commode. Pour moi, je suis embêté, vous comprenez? Je suis empêtré avec ça. Maintenant, je ne peux plus arriver à le retirer. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
T'as passé à la maison, je vous ferai voir comment on s'en sert.
Mais écoutez, vous me voyez prendre le métro avec une boîte de petits pois ouverte, ça ne serait pas raisonnable ce que vous me dites là. Vous ne pouvez pas m'envoyer un dépanneur, vous.
Non, je ne peux pas vous envoyer de dépanneur.
Ben, je sais pas, je trouve pas ça très drôle, j'entends que vous rigolez un peu là. Excusez-moi, mais moi je m'énerve depuis une heure et demie avec votre ouvre-boîte. J'ai pas le cœur tellement à rigoler, vous comprenez? Parce que vous me vendez des objets et après vous vous foutez de moi, vous payez ma tête parce que j'arrive pas à le... Écoutez là. Pauvre idiote. C'est effrayant quand même. Voilà, alors, ça y est, vous êtes calmé, oui? Bon, alors, qu'est-ce que je fais? Là, alors, j'ai les deux ailettes.
Et ben vous tirez dessus.
J'ai les deux ailettes du papillon.
Oui.
Oui, alors, qu'est-ce que je fais? Je pousse dans quel sens?
Vous poussez dans le sens que vous pourrez.
Et ça la fait rire. Mais c'est terrible, ça. Mais écoutez, enfin, vous vous foutez de moi ou quoi? Ça s'appelle être commerçant, ça, oui. Assez joli, assez... La mentalité, c'est pas étonnant que la France en soit où elle en est. Si les fabricants d'ouvre-boîte eux-mêmes, ils sont pas capables de faire leur travail sérieusement. Je t'assure que c'est pas ordinaire. Saleté de boîte de... Alors, qu'est-ce que je fais? Ça y est, la voilà qui reparle.
Vous n'êtes pas obligé d'apporter la bête de petits pois.
Et qu'est-ce que je fais alors? J'apporte quoi?
Rien. Vous n'apportez rien, vous venez tout seul.
Ah bravo. Dites, vous en vendez beaucoup des appareils comme ça?
Je comprends, on en vend des milliers tous les jours.
Des milliers tous les jours et vous marrez votre temps pour chaque appareil?
Non, je ne marie pas mon temps. Parce que tout le monde sait s'en servir.
Comment tout le monde sait s'en servir? Et alors, je suis plus idiot qu'un autre alors peut-être, c'est ça? Alors en plus de ça, je me fais injurier, je me fais traiter d'imbécile.
Je n'ai pas dit ça, monsieur.
Mais c'est ce que vous laissez entendre, vous dites tout le monde y arrive. Sous-entendu, sauve-moi. Pourquoi? Parce que je suis un imbécile. Alors j'achète un ouvre-boîte, me fait traiter de crétin d'imbécile, parce que je suis mâché. Et là, voilà le parti. Oh là là. Voilà.
Alors c'est tout pour aujourd'hui, monsieur.
Bien, madame, je le regrette bien, parce que moi, j'ai pas encore déjeuné. Et je peux pas être d'aussi bonne humeur que vous.
Vous irez dîner ce soir au restaurant?
Et oui, je vous enverrai la facture, parfaitement. Eh bien, je vous souhaite de passer une bonne après-midi, hein?
Eh bien, merci, vous aussi.
Au revoir, madame, bonjour chez vous.
Émission spéciale, ne manquez pas la fête de la radio, du 31 mai au 6 juin prochain.
À l'occasion de la fête de la radio, Séquence FM et Radio Éthique réalisent conjointement une émission spéciale à Monaco. Retrouvez sur nos ondes les moments forts de cette journée.
Je peux vous dire que Carole Chabrier est écroulée de rire en écoutant Francis Blanche. Francis Blanche avant la fesse. Eh oui, hein, c'est lui qui a tout inventé presque. Hein. Deuxième animateur, Maurice Gardette. Personnellement, moi, je ne l'ai pas connu. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, Carole et Richard?
Carole. Gardette.
Génial. Pour la première fois, tous les animateurs...
Attends, j'attends.
Oui, c'est bon.
Ça va mieux. Tous les animateurs, on était derrière, dans la partie technique, dans le studio du technicien, pour regarder. Il arrivait tous les jours avec... c'est un fou, hein, c'est un fou génial. Mais il arrivait tous les jours avec une idée. Par exemple, un matin, il est arrivé habillé en curé, et il a fait toute la matinale, les 2h30, exactement comme à la messe. « Et maintenant, bon Dieu... » et on était écroulé, mais tous les jours. Il a révolutionné vraiment l'animateur de la matinale. C'était génial.
Maurice Gardette, c'était ça.
Depuis que je suis au monde, je file la vie de patachon. Prise entre bruneuse et blonde, je n'ai jamais su dire non. Je plais terriblement et je n'y peux rien.
Il n'y peut vraiment rien.
Mon charme est des plus désarmants. Même rien faire, je le fais bien. Que voulez-vous que je fasse? J'ai le physique le plus normal. On s'y retourne quand je passe et mon succès n'est pas banal. Je plais terriblement et je n'y peux rien.
Il n'y peut vraiment rien.
Mon charme est des plus désarmants. Même rien faire, je le fais bien. Est-ce mes yeux d'un bleu profond ou bien mon corps d'Apollon? Je plais terriblement, je plais. Je fais partie du grand monde.
Il chantait bien, Maurice Gardette. Il avait une très belle voix en plus. Ouais. Il chantait souvent en direct comme ça.
Il a dû faire des blagues aussi de ce style-là.
Il faisait n'importe quoi.
Voilà. Il faisait n'importe quoi, c'est ça. Oui. C'est ça qui était drôle.
Je reste.
Je voulais vous dire quelque chose, c'est que on s'aperçoit Francis Blanche, Gardette. On va annoncer quelque chose d'autre par la suite.
On va annoncer quelque chose d'autre, oui. On va annoncer une voix emblématique de Radio Monte Carlo. Je pense que là, franchement, c'est
la star maison.
La star maison.
Et qu'il est resté.
Et c'est Jean-Pierre Foucault.
France est un beau pays, n'est-ce pas? Bonjour Monsieur Lyon. Comment s'est passé le mariage auquel vous avez assisté hier après-midi?
Oh, émouvant Jean-Pierre. Le marié avait 85 ans et la mariée 22.
C'est beau tout de même l'amour. Et alors?
À la sortie de l'église, Jean-Pierre, au lieu de jeter du riz, les invités ont jeté du Vitasse Corbol.
Vive la France!
Vive la France!
Nostalgique, Carole?
Ah oui, ah oui, j'ai passé des moments formidables. Passer un déjeuner avec Jean-Pierre, une émission avec Jean-Pierre, ça devrait être remboursé par la Sécurité sociale. Parce qu'on part du studio avec la barre là, à la taille, on est plié en deux.
Tellement vous avez ri.
Ah oui.
C'était pas
ah
la
oui.
peur, c'était le rire.
Ah non, 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 c'était les fous rires. Ouais, ouais. C'était même pas des rires, c'était des fous rires. On n'arrivait plus à retrouver son sérieux. Jean-Pierre est extraordinaire.
Richard, est-ce qu'il y a eu des feuilletons aussi sur Radio Monte Carlo, genre signé Furax par exemple, avec Francis Blanche sur d'autres montagnes? Qu'est-ce qu'il y avait par exemple?
Le bar du soleil.
Oui, il y a eu l'homme... Martin Mérois.
Ah oui.
Avec ouais. Pierre Noël. Hein.
Ouais. C'est... Il y a le bar du soleil ouais. avec Simon Audouard.
Il y a eu aussi Nicole et l'amour.
Nicole et l'amour.
Oui, non, mais je vous dis, j'essaye de voir par rapport à ce que je recherche. Mais des feuilletons, oui, il y en a eu. Oui.
Et des dramatiques sonores?
Alors, ça, c'est au tout début.
Au tout début?
Oui. Ouais. Ouais, c'est-à-dire que les années 50, là, il y avait énormément de dramatiques, sachant aussi qu'il y avait des. Comment dirais-je? Tous les concerts à Monaco étaient enregistrés. Donc, aussi, c'est ce concert okay. symphonique. Ça, c'était important aussi. Donc, on avait.
Et pas mal de retransmissions en direct. Il y avait des jeux, et évidemment, aussi emblématiques. Que Jean-Pierre Foucault, c'est Zappi Max.
Oui, c'était Zappi Max, qui tout que j'ai connu et qui était vraiment un personnage extraordinaire, qui a révolutionné un petit peu la radio. Hein. D'autant qu'en plus, Radio Monte Carlo, après, avait repris Qui tout double, le grand Qui tout double pour l'opération personnage. Ça, ça a été aussi fabuleux. C'était aussi la radio du cœur, tu l'as dit tout à l'heure, par rapport. Il s'investissait un peu dans des recherches de charité, des recherches sur, on cherchait, ça c'est fabuleux.
On s'est surtout occupé de personnages.
C'est ça.
Et c'était dans mon émission quand j'ai reçu Lino Ventura.
C'est l'association de Lino Ventura.
Il a tellement hurlé contre le gouvernement, les gens qui ne l'aidaient pas. Il était face à une quantité de handicapés comme l'une de ses filles et personne ne l'aidait à ce moment-là. Et le directeur des programmes a entendu ce cri vraiment du cœur de Ventura disant on me laisse seul face à tous ces jeunes et qu'est-ce qu'ils vont devenir quand ils vont vieillir, qui va en vouloir tant que c'est un enfant petit, tout le monde on a beaucoup de patience, on est touché, puis quand quelqu'un arrive à l'âge adulte qu'est-ce qui devient. Et Jean Gauthier, notre directeur des programmes, qui l'a entendu, a dit on va faire quelque chose. Et il a trouvé donc Zappi Max, le Qui tout double, qui a été. Toutes les vedettes sont venues. Mireille Darc, Lino Ventura. Dis-moi, il y a les noms.
Serge Lama, il y
avait
tout le monde.
Toutes les vedettes sont venues participer. Ont gagné de l'argent et on a pu ouvrir deux maisons complètes. On a offert deux maisons pour des enfants handicapés à Lino Ventura. Et ça s'est poursuivi comme ça. Mais tout le monde a voulu venir. Aline Renaud, chaque vedette entraînait quelqu'un d'autre.
Autre type d'émission, c'était les pastiches. Parlez-nous un petit peu des pastiches, parce que ça a complètement disparu de l'antenne. Là.
Pastiche avec de l'eau.
Et, et les glaçons.
Il paraît que ça guérit. Bon, j'ai entendu ça.
Bien. Le coronavirus.
Ouais, bravo. Il paraît.
J'écoute.
C'est bien.
J'écoute.
Oui, pastiche. Non, alors.
Jean Sas. Tu veux parler de Jean Sas?
Alors, tu as raison. Tu fais bien.
C'est
tu
Jean
fais bien
Sas.
Dans, tu, fais, tu fais bien d'en parler.
Bah attends, Jean Sas.
Tu fais bien d'en parler. Non, parce que là, c'est autre chose. Parce
ça a été un grand moment.
Oui. Non, mais les vedettes. Hein, Banessi a demandé aux vedettes Serge Lama, Sardou, les grandes vedettes Sheila, Françoise Hardy, au travers de leur titre phare, de faire des chansons, mais avec un plagiat où Radio Monte Carlo était à l'intérieur. Ça, je ne sais pas si tu as connu, non. Mais enfin, j'ai fatalité.
Je ne me souviens pas de
voilà,
ça.
Voilà, donc non. On parlait des plagiats. Mais Carole a raison de parler de Jean Sas. C'était assez fabuleux. Parce qu'il arrivait, et là j'ai les images, il arrivait avec carrément une cuillère, hein, et c'était le micro. Quoi. Personne ne voyait. Voilà.
On va en écouter un pastiche.
Voilà.
T'écoutes ou t'écoutes pas? T'écoutes, c'est bien. Si t'écoutes pas, tant pis. Si t'écoutes pas, tu le regretteras toute ta vie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. Radio Monte Carlo, ou t'écoutes ou t'écoutes pas? T'écoutes ou t'écoutes pas? Essaye pour voir, après tu comprendras. Monte Carlo, ça t'apporte un son nouveau. Monte Carlo, la radio au bord de l'eau. C'est facile, c'est comme ça. Écoute-la et tu verras. Ami, si tu aimes la musique.
Ah, ça, c'est Zanini qui se pastiche lui-même, en fait. Hein. En gros.
Oui, un petit peu. Mais en fait, oui. Les autres, Sardou ou Lama, c'est assez extraordinaire.
Est-ce qu'il y avait des programmations spéciales selon la personnalité des animateurs, par exemple? Est-ce que quand Carole Chabrier est passée à l'antenne, vous lui proposiez des choses spéciales pour elle? Non, ça ne se faisait pas, c'était pas ça.
Carole a eu quelque chose qui a bien marché, c'était le Chouette Club.
Le Chouette Club.
Et vous, Carole, vous demandiez des. Vous aviez des requêtes, par exemple, chez les programmateurs ou chez les.
Non.
Vous leur laissez faire.
Non, parce que tout était basé sur la vedette qui était là. Bon. J'ai eu toutes les grandes vedettes au Chouette Club. Et tout le monde est venu parce qu'il y avait une trentaine d'enfants dans l'émission. Et d'ailleurs, Jacques Martin m'a dit un jour, est-ce que je peux te piquer ton idée? Et c'est comme ça qu'il a créé l'école des fans.
Vous aviez aussi, vous aviez aussi d'autres émissions?
Ah non, moi j'étais avec Jean-Pierre.
Alors donc, c'était bien ça la tribu, c'était même le trio, c'était Jean-Pierre, Léon et Carole.
Oui.
Alors?
Et puis on a fait surtout beaucoup d'extérieur, parce que quand vous me disiez les émissions en extérieur, c'est toi Jean-Louis qui disais ça, mais quand on avait 50 000 personnes devant le podium à Marseille, on faisait tous les mercredis matins l'émission de Marseille.
Ça c'était la belle époque. Ça c'était non là tu parles de la belle époque. Ça,
Qu'après on avait
que je respecte beaucoup.
Jeudi on avait la part Dieu à Lyon, on avait Bordeaux bien sûr. Je parle même pas de La foire au vin, comment ça s'appelle? Vinexpo, non.
Vinexpo à Bordeaux, oui, absolument.
Vinexpo à Bordeaux, voilà.
Foire de Marseille. Hein, donc.
La foire, le parc Chanot, le parc Borély, 50 000 personnes.
Les fleurs du printemps, on distribuait des fleurs. C'est une radio qui distribuait des fleurs.
Je pense qu'on a tout fait, non?
Oui,
pratiquement.
Je pense.
Voilà. Mais les extérieurs, je ne parle même pas des tournées d'été avec toutes les stars qui sont passées, les tournées d'été, mais là, on n'y était pas, nous, parce qu'on a engagé toujours une vedette.
Antoine, entre autres, enfin.
Carlos.
Oui. Carole, Foucault et Léon, ils vous charriaient un peu quand même, mais c'était toujours dans la gentillesse.
Ah, oui, toujours. Ça n'a jamais été méchant, mais c'est vrai que. Et quand j'ai fait Carole aux casseroles, par exemple, le matin à 10h30, parce qu'il y avait une petite chute à 10h30, et Jean Gauthier, notre directeur, a une petite chute au sondage. Et il a dit c'est normal parce que les mamans sortent pour aller faire les courses ou récupérer les enfants à l'école. Donc, remontez-moi le 10h30. Jean-Pierre a dit qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai dit tu veux pas que je fasse de la cuisine? Or, il faut savoir que je suis une très grande cuisinière. Quand Jean-Pierre mange à la maison, par exemple, il y a le demi-pamplemousse et la tranche de jambon dans le papier, car je n'ai jamais sorti une assiette chez moi. Tout et je mange dans le bout de papier.
Et elle a commis un livre de cuisine.
Parlons-en.
Et j'ai été best-seller, le second, j'ai été best-seller dans les livres de cuisine. Notre maison d'édition à Magellan, à Paris, RMC, m'a dit, écoute, j'en reviens pas, on a fait un carton avec ton livre de cuisine.
Mais ça tombe bien ce centenaire, parce que vous allez écrire un livre sur Radio Monte Carlo. Vous pouvez nous en parler un petit peu sans le déflorer, vous pouvez nous donner quelques idées.
C'est pas moi qui écris sur Radio Monte Carlo, moi j'écris sur Carole Chabrier. Je marque tout ce que j'ai fait et croyez-moi, quand je regarde tout ce que j'ai fait, je me dis comment j'ai pu faire tout ça. Parce que j'ai fait l'armée pendant un an. On a fait 3 ans l'armée. La première année, c'était Gérard Klein. Toujours Jean Gauthier, qui était un type extraordinaire.
Je ne comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire faire
alors, on a fait.
Pas au sens israélien du terme. Hein.
Non. On a été engagé par le CIRPA. Donc le service de presse. On a été engagé pour faire des jeux dans chaque base de France. Et la première année, ça a été Gérard Klein. La deuxième année, ça a été Franck Fernandel. Et la troisième année, ça a été moi. Et ça s'est arrêté parce que M. Mitterrand est arrivé en 81. Moi, j'ai fait l'année 80-81. Il n'a pas renouvelé le contrat avec le CIRPA. Donc... Mais c'était formidable. Moi, j'ai même pris un avion à réaction. J'ai fait... J'ai passé des moments... Mon père, qui avait fait 10 ans à l'armée, quand il me racontait... Sur ces grands navires de guerre, il me racontait la vie, c'était pas facile. Or, moi, j'ai trouvé une armée jeune, sympa, les jeunes tutoient le colonel. Dis donc, colonel, attends, tu manges au mess avec les officiers, le pacha sur les bateaux t'invite. J'ai passé une année extra. J'ai fait 4 jours à Saint-Cyr.
On est compte, on est échappé.
Moi, j'ai pas fait mon service militaire.
Ah, mais si j'avais été un garçon, j'aurais aimé faire l'armée.
Ah, mais dis-moi, moi, j'aurais pas été réformé si t'avais été ministre des armées, je te le dis. Hein.
Carole, dites-nous la fois où vous êtes le plus marré à Radio Monte Carlo.
Tout le temps.
Tout le temps. Il n'y a pas une anecdote précise où vous avez vraiment...
Non, franchement, non. J'ai eu de la chance.
Et la fois où vous avez eu le plus peur?
On a failli mourir 2 fois avec Jean-Pierre et Léon.
Qu'est-ce qui s'était passé ?
Eh ben, à la foire de Marseille, on devait remettre le disque d'or aux rubettes. Vous vous souvenez des rubettes ?
Avec leur casquette.
Les rubettes.
Les rubettes. On doit remettre le disque d'or donc au parc Chanot à Marseille. Et toujours notre directeur Jean Gauthier dit pour que les papas, les mamans viennent avec leurs enfants. On va remettre ça à 18h. Donc c'est en plein été et les gens arrivent, les enfants sur les épaules et tout. On a le carpodium. On met, comme il y a énormément de monde, on met une barrière à 2 mètres du podium. Et là, il y a la sécurité qui est dans ce petit espace. Et au bout de quelques minutes, donc il est 18h le soir, on nous met quand même des projos sur le podium pour nous éclairer, nous, les stars, et les stars qui vont arriver, les rubettes. Et on commence à parler avec Jean-Pierre et Léon. Et subitement, il y a plein de jeunes qui commencent à envoyer des bouteilles de bière vides dans les projecteurs. Donc les projecteurs explosent. C'était épouvantable. Les enfants, les bébés, tout ça commence à hurler, à pleurer. C'était épouvantable. Et d'ailleurs, on a arrêté, à partir de ce jour-là, les émissions à Marseille.
Mais vous en êtes sortie puisque vous êtes là. Ah, c'était oui, Carole Chabrier. Merci, Carole, de nous avoir donné quelques témoignages comme ça. Les animateurs célèbres, il y en a eu d'innombrables sur RMC. Il y a eu Frédéric Gérard.
Oui.
Bien sûr. Il y a eu José Sacré.
Absolument.
Il y a eu Patrick Roy. Il y a eu Claire Cardel. On ne va pas tous les citer.
Julien Lepers.
C'est vrai qu'il est passé.
Patrick et Julien ont débuté chez nous et sont devenus quand même de grandes stars de télévision.
On ne va pas tous les citer. De toute façon, on fera des jaloux. C'est forcé. Mais on va retrouver dans un instant notre invité surprise.
RMC Radio Monte Carlo.
Émission spéciale, ne manquez pas la fête de la radio, du 31 mai au 6 juin prochain.
À l'occasion de la fête de la radio, Séquence FM et Radio Éthique réalisent conjointement une émission spéciale à Monaco. Retrouvez sur nos ondes les moments forts de cette journée.